On s'était arrêté, on est toujours avec André, on est toujours avec Patrick. André, qui est le président de l'association CRPA, le cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie, qui est aussi, entre parenthèses, militant Ligue des droits de l'homme de Paris 8e, 17e, et Patrick, qui est militant également de la section Paris 8e, 17e. Aujourd'hui, on s'attarde un peu sur l'enfermement psychiatrique sous contrainte et plus particulièrement sur la proposition de loi relative aux soins sans consentement en psychiatrie. Proposition de loi qui date, qui est toute récente là, les discussions en tout cas s'ouvrent, qui date de 3 juillet dernier, 3 juillet 2013. Alors en première partie, on a quand même abordé un peu les choses de manière technique, avec un jargon juridique, mais bon, voilà, quand on parle de droit, c'est tribu, hein, c'est triste tribu quand on aborde la question des droits. On a parlé également de la procédure, des nouvelles procédures, et notamment la loi du 5 juillet 2011. Et en deuxième partie, on va s'attarder plus particulièrement à ce projet de loi. Alors André, qu'est-ce que cette proposition de loi amènerait, apporterait, qu'est-ce qu'elle amène?
Elle amène incontestablement des choses, hein, parce que c'est.
Mais moi je dis, je reste au conditionnel, parce que c'est une proposition et que c'est pas encore il va y avoir des chaudes discussions. Alors toi qui es plus positif et plus moi je suis pessimiste et toi t'es optimiste. Toi qui es plus optimiste que moi, qu'est-ce qu'elle amènerait alors?
Alors je pense que tout d'abord, hein, il faut situer le travail du député Denis Robillard qui est à la base de cette proposition de loi, puisque cette proposition de loi
député PS,
qui n'est pas n'importe quel député au Parti socialiste, qui n'appartient pas à n'importe quel courant. Il faut donc faire un petit historique. Tout d'abord, en novembre 2012, émis sur pied par le gouvernement et par le président de l'Assemblée nationale, une mission d'information sur la santé mentale et l'avenir de la psychiatrie, dont le président est le député UMP Arnaud Robinet, et le député rapporteur est monsieur Denis Robillard, député PS, qui va être la cheville ouvrière, le principal dirigeant de cette mission d'information.
C'est lui que vous avez en premier lieu sollicité? Comment ça s'est passé? Ou c'est lui déjà
Non, je vais l'expliquer. C'est le gouvernement et la présidence de l'Assemblée nationale qui ont mis sur pied, en novembre 2012, une mission d'information sur la santé mentale et l'avenir de la psychiatrie, ayant pour but, premièrement, de répondre à la QPC du 20 avril 2012 du CRPA, censurant, sur décision du Conseil constitutionnel, sur requête du CRPA, censurant deux articles de la loi du 5 juillet 2011 sur les patients, les internés en unité pour maladies difficiles et les pénaux irresponsables, et mettant une réserve de fait, une réserve d'interprétation de facto sur les programmes de soins.
Deux ans de bataille pour le CRPA.
De toute façon, oui. Mais enfin, bon, c'est une bataille gagnée, puisque sur la foulée de requêtes en annulation qu'on a déposées au Conseil d'État contre les décrets d'application de la loi du 5 juillet 2011, on avait greffé cette QPC. Cette QPC a été remportée par une décision de gain de satisfaction partielle du 20 avril 2012. Après, c'est les conséquences législatives. Puisqu'il y a censure, faut des conséquences législatives. C'est donc la mise en œuvre des conséquences législatives de cette décision du Conseil constitutionnel, selon quelle modalité le gouvernement, le Parlement, allait légiférer quant aux patients médico-légaux, les internés en unité pour maladies difficiles et les pénaux irresponsables. Ce que le Conseil constitutionnel exigeait, c'est qu'on apporte des garanties. Certes, il peut y avoir un régime dérogatoire pour les magistrats constitutionnels à l'internement des pénaux irresponsables et des internés en UMD, pour leur sortie, pour la main levée. Certes, il peut y avoir un régime dérogatoire, des clauses d'expertise supplémentaires, mais on doit fournir à cette catégorie d'internés particulièrement dépendante de l'institution et particulièrement tenue, particulièrement réprimée, on doit apporter à ces détenus psychiatriques des garanties. Quelles garanties le législateur peut leur donner. Voilà, ça a été une partie de la question. Et d'autre part, le gouvernement socialiste s'était engagé à réformer au moins à la marge la loi du 5 juillet 2011 et à réenvisager l'ensemble du circuit psychiatrie santé mentale. Puisque, tout de même, dans ce pays, la file active en psychiatrie publique est de 2 millions de personnes. Que le total des personnes suivies en psychiatrie publique, d'une part, en libre, la plupart des personnes sont suivies librement, évidemment, et en psychiatrie privée, au niveau des cliniques, au niveau des consultations privées, est de l'ordre de 4 millions de personnes pour l'ensemble des deux files actives. C'est quand même énorme. Que la mise en invalidité pour raison maladie, c'est le motif psychiatrique est le premier motif de mise en invalidité et que c'est un des premiers postes de dépenses de la sécurité sociale au niveau des branches maladies. Il est donc insupportable et intenable de laisser au secret, au silence et de façon non débattue les questions de psychiatrie et de santé mentale. Et d'abord, où est la frontière entre la psychiatrie et la santé mentale? Par ailleurs, c'est une vieille question qui a été soulevée il y a d'ores et déjà une vingtaine d'années à propos de rapports officiels remis au ministre. Donc tout cela devait être débattu et une mission d'information a été mise sur pied. C'est le député Robillard. En novembre 2012, c'est le député Robillard qui a essentiellement animé cette mission et qui a déclenché des auditions qui ont commencé, des auditions de différents experts, de différents bords et de différentes organisations représentatives, dont la nôtre. D'ailleurs, on a été auditionné à deux reprises, d'ailleurs. À partir du mois de janvier 2013. Les auditions sont succédées, elles sont d'ailleurs sur le système vidéo de l'Assemblée nationale, on peut visionner ces différentes auditions. Il y a une trentaine d'heures d'auditions à peu près entre le mois de janvier 2013 et le mois de mai. À l'issue de la première tranche de ces auditions, le député Denis Robillard rend public un rapport d'étape, son rapport de la mission d'information, son rapport d'étape du 29 mai, et c'est à l'issue de ce rapport d'étape qu'il annonce qu'il va déposer une proposition de loi, alors qu'on se demandait, par rapport à la décision du Conseil constitutionnel, s'il allait y avoir un projet de loi gouvernemental avec une étude d'impact, avec ce qui est lié à un projet de loi, c'est-à-dire une étude d'impact. Les services ministériels font une enquête, évaluent le coût, évaluent le dispositif tel qu'il est, tandis que dans le cadre d'une initiative parlementaire, d'une proposition de loi, il y a certes un débat si la proposition de loi est adoptée et renvoyée en commission en lecture à l'Assemblée, ce qui a été le cas d'ailleurs pour cette proposition de loi, mais c'est une initiative parlementaire. Alors, on est donc passé par les fourches codines de l'initiative parlementaire et pas du projet de loi. Ce qui, moi, m'a fait dire et nous a fait dire que tout de même, le gouvernement se fichait de nous. Parce que si on avait voulu prendre au sérieux cette question, on aurait sorti un projet de loi. Alors, là-dessus, on a fini par avoir des engagements qu'on attendait, et ces engagements de la ministre de la Santé sont devenus solennels à la première lecture de cette proposition de loi le 25 juillet 2013, parce qu'il faut, préciser que la proposition de loi Robillard est pratiquement adoptée. La première lecture, c'est une procédure accélérée, il n'y a qu'une lecture par chambre, la procédure accélérée a été engagée, la première lecture à l'Assemblée nationale a eu lieu le 25 juillet dernier, la deuxième lecture aura lieu le 13 septembre prochain, vendredi prochain, et après, soit c'est une lecture conforme et ça s'arrête là, soit c'est pas une lecture conforme, il y a une CMP, une commission mixte paritaire. Et après les travaux de la commission mixte paritaire, c'est la promulgation. Donc le processus législatif, il est pas encore clos, mais pas loin. Hein. C'est ça qu'il faut voir.
C'est pour ça que tu es optimiste.
C'est pour ça que optimiste, ouais. Et c'est sur un certain nombre de points. Sur d'autres, je suis plus réservé. Alors, toute la querelle, et c'est ce qui fait les divergences d'interprétation, certains, c'est un peu la querelle du vide à moitié vert, à moitié plein ou à moitié vide, c'est qu'il ne s'agit que d'une proposition de loi et que, comme l'a souligné très justement le député Robillard, dans le cadre d'une proposition de loi, on ne remet pas à plat tout un dispositif. C'est bien une proposition de loi avec quelques articles relativement élargis, mais on en reste là. La ministre s'est engagée, c'est modifiant, oui, la ministre s'est engagée à déposer dans le cadre de la prochaine loi santé publique en 2014, elle s'est engagée solennellement, un volet santé mentale, sur l'organisation des soins en matière de santé mentale, et on sait que ce volet s'intègre dans le cadre du futur de la stratégie nationale de santé, l'orientation, réorientation du circuit hôpital-territoire de santé, et on sait qu'il va être question en 2014 en matière de santé mentale, d'une part il va être question des actions de groupe, hein, de toutes les façons, en matière de santé, la question de savoir si les actions de groupe de Benoît Hamon vont être traduite au plan de la santé, sur les médicaments, sur la... Bon, de toutes les façons, sur l'organisation des soins. Parce qu'il est vrai que l'organisation des soins en matière de psychiatrie santé mentale souffrirait d'un ravalement. Mais alors, franchement, de repenser le dispositif. Hein. Le dispositif est horriblement mal fichu. Hein. Donc, il faut bien voir qu'il y a eu d'abord, avant cette proposition de loi, les travaux de la mission d'information sur la santé mentale et l'avenir de la psychiatrie. Que donc le rapport d'étape du député Robillard sur les travaux de cette mission est déposé le 29 mai, que le 29 mai il fait un certain nombre de préconisations, de réformes, qu'il va reprendre dans sa proposition de loi. Et c'est ces préconisations qui vont prêter lieu à des tractations entre le mois de mai et le mois début juillet, entre le député Robillard et ses collaboratrices, et les différents ministères protagonistes. Et là, il y a eu des arbitrages. Et ça s'est vu à la séance du 25 juillet. Il y a eu des arbitrages, puisque tout de même, le plan psychiatrique concernant l'enfermement et les modalités dérogatoires sur la main levée de l'enfermement des patients dangereux et difficiles, ou difficiles, les deux, touchent aux sécuritaires et touchent aux policiers. Mmh. Et il y avait donc le ministère de l'Intérieur qui était donc en jeu. Alors, il y a eu des arbitrages de ce côté-là. Bien. Alors, il faut savoir que le député Robillard s'est efforcé de ne pas rallumer la guerre sécuritaire sur les malades dangereux, les schizophrènes dangereux, les criminels fous, etc. Et que donc, quant à ce que nous, on avait réclamé, que ce soit avec un certain nombre de syndicats, d'ailleurs, la suppression du régime dérogatoire, c'est-à-dire que le régime dérogatoire, c'est que la loi du 5 juillet 2011 s'agissant des internés pour des raisons de dangerosité expresse, bon, de dangerosité expresse réelle ou supposée, hein, maintenant, pour les pénaux irresponsables, les personnes déclarées pénalement irresponsables, par voie correctionnelle ou par voie criminelle, hein, des pénaux irresponsables, les personnes internées en unité pour maladie difficile plus d'un an, ou ayant de tels antécédents 10 ans antérieurement, hein. C'est donc cette notion de quasi-psychiatrique, ce qui incluait pas mal de centaines de personnes, hein, tout de même. Créer donc un des plusieurs SAS pour obtenir la mainlevée ou l'amélioration du régime d'internement, l'obligation de recueillir l'avis d'un collège de soignants internes, 3 soignants, dont 2 psychiatres, un psychiatre traitant, un psychiatre non traitant, un cadre de santé, désigné par le directeur de l'hôpital, et l'avis d'un collège de 2 psychiatres experts près les tribunaux, désigné, commis, soit par le juge s'il y a un contrôle, le JLD, soit par la préfecture. J'aurais-il qu'il y a donc, en place, là, l'obligation pour toute cette catégorie de personnes, avec y compris seulement les antécédents, l'obligation de recueillir 5 avis concordants. Donc 4 avis médicaux concordants, plus un cadre de santé, ce qui fait 5 avis médicaux ou paramédicaux concordants.
C'est ça qui change?
Et c'est ça qui tombe, ouais. C'est ça qui tombe, vous comprenez, parce que c'est ça qu'on a obtenu au Conseil constitutionnel. D'accord. C'est d'abord, ce qu'on a obtenu, c'est que ce régime dérogatoire qui ne présentait aucune garantie pour les internés et qui créait des perpétuités psychiatriques de facto, en concurrence avec la loi de février 2008 sur la rétention de sûreté, avec d'autres dispositions, empêchait des gens d'obtenir une mainlevée quelconque d'internement psychiatrique pour des raisons non criminelles. Y compris dans la masse et surtout pour des gens non criminels, puisque la majorité des personnes concernées, des internés concernés par ce régime dérogatoire, n'ont pas commis de crime. que donc on s'est cru permis sous le sarkozysme d'instaurer un régime de perpétuité psychiatrique de fait pour des personnes ne valant pas de perpétuité, ce qui est quand même très grave, et y compris même pour des gens n'ayant que de tels antécédents et pouvant rechuter d'office pour des raisons parfaitement mineures. De tels antécédents dans le délai de 10 ans auparavant. Le Conseil constitutionnel n'a pas remis en cause dans la décision de notre association, la décision QPC-CRPA du 20 avril 2012, n'a pas remis en cause le principe même de ce régime dérogatoire. Il a dit, et c'est là-dessus qu'il a censuré les deux articles de loi en question, de la loi du 5 juillet 2011, il a dit que des garanties procédurales, judiciaires, des garanties quant à aux droits et à leurs droits fondamentaux et aux libertés de ces internés, devaient être amenées à ces internés que la loi devait leur garantir des droits qui ne leur étaient pas garantis. Donc là-dessus, le législateur devait obligatoirement se pencher. Le député Denis Robillard a fait des préconisations. Et une de ces préconisations à l'issue des travaux de la mission d'information était la suppression, ce que nous on réclamait, du régime dérogatoire pour les internés en UMD, ex-internés en UMD, en unité pour maladie difficile, et le maintien de ce régime dérogatoire pour les seuls criminels. Et après les tractations avec les différents ministères concernés, santé, intérieur, justice, premier ministre, on aboutit à une proposition, ça c'est le 29 mai, on aboutit à une proposition de loi où après les arbitrages avec les ministères, ce que le député Robillard dépose comme proposition de loi, c'est un régime dérogatoire maintenu pour les personnes ayant valu encouru des peines d'au moins 5 ans de prison pour l'atteinte aux personnes et au moins 10 ans de prison pour l'atteinte aux biens. 10 ans de prison pour l'atteinte aux biens, c'est les incendies criminels. 5 ans de prison, c'est les peines, c'est la menace de mort renforcée sous condition, etc. Donc, c'est pour des délits graves. Donc, alors c'est déjà pas mal. On obtient, et ça a été adopté. Hein. Ça a été adopté avec l'UMP qui a voté contre. Adopté. On obtient que pour les simples internés en unité pour maladie difficile, qui souvent sont des patients des services ingérables, devenus ingérables pour des services de psychiatrie ordinaire, et du coup on les bascule parce qu'il y a eu telle violence ou telle échauffourée avec des soignants, on les bascule en unité pour maladie difficile. Il n'y a donc pas là, c'est de simples malades, ce ne sont pas des pénaux irresponsables, ils n'ont pas encouru les foudres d'une déclaration d'irresponsabilité. On a donc, ils peuvent rester internés plus d'un an, ou avoir de tels antécédents, on a donc obtenu que le régime dérogatoire soit supprimé pour ces patients-là.
Donc ça veut dire que si je...
Et par ailleurs, le régime dérogatoire saute pour les pénaux irresponsables pour des faits mineurs ou moyennement graves. Ce qui est déjà ça. C'est déjà ça. Mais...
On sait.
Bon, voilà, c'est déjà ça. Bon. Oui.
Oui, oui. Si je comprends bien, un patient pouvait être sous régime dérogatoire sur une simple, par exemple, encartade avec un personnel soignant. Oui. D'accord.
Oui, c'est-à-dire que on a le cas d'un parent d'un interné à l'unité pour la nouvelle unité pour maladie difficile ouverte en 2011 d'Albi, dans le Tarn, qui en octobre-novembre 2012 s'est frité avec un jeune homme, avec un infirmier, la castagne, bon. Il a été basculé du régime du temps en soins libres, il a été basculé en SDT puis en SDRE, d'internement d'office, envoyé en unité de soins intensifs au Vinatier à Bron, dans la banlieue de Rhône, de la retransférer dans son hôpital d'origine et de là, paf, basculé à l'unité pour maladie difficile d'Albi, où il est depuis le mois de février. Bon, s'il reste plus d'un an, cet interné, le régime dérogatoire lui sera appliqué, ce qui veut dire l'obligation de recueillir, ne serait-ce que pour un assouplissement, 5 avis médicaux ou paramédicaux concordants, si bien que, de facto, s'il ne quitte pas rapidement le statut d'interné en UMD avant la date butoir d'un an, il encourt cet énorme risque, alors qu'il n'a que 20 ans, de rester sous contrainte psychiatrique à vie, parce que par principe de sécurité, quels vont être les collèges soignants qui vont donner un avis favorable, avalisé par le directeur, avalisé par le préfet, et que le préfet va donner une levée. Bon.
Mais il va bénéficier, ce jeune homme dont tu parles. Oui.
D'aménagement, mais enfin, on n'en sait rien. Oui. Il est, quand vous êtes interné, il n'y a pas de durée limite. C'est renouvelé, puis c'est tout. Hein,
non, mais si la loi, si cette proposition de loi...
Elle va être adaptée, cette proposition de loi, ce n'est pas un problème. Oui. Puisque je vous dis, le dernier processus d'adoption, c'est vendredi prochain au Sénat. Bon, donc elle va être adaptée. Ce qu'on ne sait pas, c'est quels amendements vont être apportés au Sénat, mais ce ne sont que des amendements. Hein.
D'accord.
Étant donné que la majorité était très confortable à l'Assemblée nationale le 25 juillet, il n'y a que l'UMP qui s'est opposé sur certains points, c'est tout. Les autres groupes ont voté pour, hein, y compris l'UDI, les centristes, il n'y a pas de difficulté. Alors, oui, d'accord, ce régime dérogatoire pour une personne comme ce jeune homme, ne va pas s'appliquer, mais il aura fallu se battre. Oui. Il aura fallu se battre. Alors, d'autre part, s'agissant des pénaux irresponsables, on peut être déclaré irresponsable pour des faits de type vol avec récidive en état de kleptomanie. Alors, c'est pas des faits graves, ça. On peut être déclaré également, on peut être déclaré irresponsable pour vol en état d'ivresse, alors qu'on était en état on est constaté en état de démence avant les faits, en état de maladie mentale avant les faits, et qu'on est pénalement, on est déclaré pénalement irresponsable après, bon, voilà. Donc, la déclaration, ou bien des faits un peu plus graves, mais voilà, sans plus, la déclaration d'irresponsabilité, sans qu'on prenne l'échelle des peines, et sans qu'on prenne la mesure de la gravité des peines encourues, puisqu'on est déclaré irresponsable, donc on sort du circuit judiciaire pénal, sans qu'on prenne l'échelle des peines, c'est invraisemblable. Et donc là, il va être instauré une échelle de gravité.
D'accord.
Et donc le seuil, et donc le régime dérogatoire ne s'appliquera plus à partir de l'adoption définitive de cette proposition de loi que pour des peines encourues donc de 5 ans de prison pour l'atteinte aux personnes, 10 ans de prison pour l'atteinte aux biens. Alors, après nous, on a un certain nombre d'arguments à faire valoir là-dessus, des arguments d'inconstitutionnalité, bon, voilà. Alors, donc, ça c'est sur quant au régime dérogatoire. D'autre part, la proposition de loi intériorise, monte au plan législatif ce que nous avons obtenu du Conseil constitutionnel, qui est extrêmement important. Le Conseil constitutionnel sur les programmes de soins est venu dire, et nous a débouté, parce que nous on demandait que l'article sur les programmes de soins soit censuré parce qu'il n'y avait pas de contrôle judiciaire des programmes de soins, qu'il s'agit de mesures de contraintes aux soins. Et donc on disait on a soutenu qu'il y avait violation de l'article 66 de la Constitution, qui dit que c'est le juge judiciaire qui est garant des libertés individuelles et pas l'administration, et que bon, bah, par conséquent, les programmes de soins devaient être pris sur décision judiciaire. On a été débouté au motif que précisément la loi du 5 juillet 2011, dans son esprit, telle qu'elle avait été adoptée, et notamment par un amendement de 2011 du sénateur Jean-René Le Serre, UMP, voulait que le programme de soins était certes un soin obligatoire, mais exempt de toute contrainte. Donc c'est un soin obligatoire sans qu'il y ait d'exercice de la contrainte. Eh bien, la proposition de loi élève au rang législatif ce considérant du Conseil constitutionnel et vient dire qu'aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme des programmes de soins. Pour nous, ça, c'est une avancée fantastique. Hein. C'est très important parce que cela veut dire qu'un patient qui est en programme de soins, une personne prise en charge ou contrainte en psychiatrie qui est mise en programme de soins, peut négocier ses soins et qu'elle peut refuser. Qu'elle peut refuser ses soins. En cas d'inobservance, on doit le réhospitaliser sous contrainte à temps complet et lui rouvrir toute la procédure et l'accès au juge. Dans le même délai et avec le même formalisme que l'hospitalisation initiale. Ce qui complexifie la mise en œuvre de genre de contrainte. Et donc, là-dessus, nous disons que nous avons obtenu une victoire partielle. C'est que nous, on était contre la légalisation de la contrainte aux soins ambulatoires. Et là, comme ça la complexifie, et comme ça durcit les conditions de réhospitalisation en cas d'inobservance, bien, bah, le système va y réfléchir à deux fois.
Le CRPA était contre, mais c'était quoi l'alternative que vous proposiez, par exemple?
Que ce soit judiciarisé. Ce qu'on prenait, c'était qu'on a défendu devant le Conseil constitutionnel, d'abord devant le Conseil d'État, puis devant qui nous a envoyé au Conseil constitutionnel, qu'il y avait un problème de constitutionnalité sur les programmes de soins, parce que les programmes de soins sont des soins sous contrainte, et que en tant que contraignant la liberté, restreignant la liberté, qu'il s'agit de soins dans lesquels on rentre dans la chair des individus, violant l'intimité et la vie privée des gens, la Constitution devait garantir un contrôle obligatoire du juge judiciaire quant à l'instauration de ces mesures. On n'a pas été reçu, on a été débouté, mais le Conseil constitutionnel, dans son considérant 12 de cette édition du 20 avril 2012, a émis ce que moi j'appelle une réserve de fait, une lecture littérale de la loi, en disant que précisément il nous déboutait de notre demande d'inconstitutionnalité, en considérant que dans l'exécution des programmes de soins, aucune contrainte n'était admise, sauf à réhospitaliser la personne en lui rouvrant le processus de contrôle. Qui complexifiait la donne. Ça nous avait laissé très perplexes au moment du délibéré, mais là que cette absence de contrainte dans la mise en œuvre des programmes de soins soit élevée au rang, soit légiférée, soit introduit dans la loi, ça va faire réfléchir tout le monde. Ça va faire réfléchir tout le monde. Et les patients sous programme de soins, vous pouvez négocier. On doit recueillir votre avis. On doit s'assurer finalement de votre consentement à la contrainte. Finalement, il y a quelque part une obligation de rechercher à tout le moins l'avis du patient sur son programme de soins. Et on, quelque part, de recueillir un certain consentement à la contrainte.
Et quels sont les recours s'il n'est pas d'accord ?
Alors, s'il n'est pas d'accord, d'abord, lui, il peut saisir le juge d'un recours facultatif en main levée, en main levée du programme de soins. Bon, il y a déjà un arrêt du Conseil d'État important qui a été pris là-dessus, qui rend le juge, le JLD, compétent sur la contestation des traitements dans le programme de soins. Et d'autre part, s'il rejette les soins du programme de soins, l'hôpital doit le réhospitaliser avec un titre exécutoire. Il repasse devant le juge où il peut faire valoir ses moyens.
D'accord.
Puisqu'il repasse devant le juge dans un délai raccourci de 8, 9, 10 jours.
D'accord.
Donc il peut faire valoir ses moyens. Le patient n'est pas d'accord sur les soins du programme de soins. On le réhospitalise à temps complet. Il repasse, il revoit le juge.
Il remotive son refus.
Là, il fait valoir ses moyens. Mm-hmm. Là, il fait valoir ses moyens, de fond comme de droit, et puis se noue une discussion. Mm-hmm. Donc, c'est cette possibilité de négociation qui nous paraît intéressante et qui nous fait dire, avec les psychiatres du collectif des 39, qui ont regardé ça, et eux sont très opposés, qui nous fait dire que oui, c'est ça, pour les psychiatres très favorables à la contrainte aux soins, ça va les faire réfléchir, parce que, c'est compliqué de réinterner les personnes. Parce que ça, ce que ça veut dire également, c'est qu'on ne peut plus rentrer à votre domicile sous contrainte de force pour vous contraindre aux soins, pour vous piquer un neuroleptique. Ça, c'est ce qu'on a fini par obtenir. Ce n'est plus légal.
Or, il y a c'est une victoire.
C'est une victoire tout de même. Oui, c'est une victoire. Puisque on a vu, par exemple, le médecin-chef du 12e arrondissement de Paris, le docteur Gilles Bidon, qui lui s'est vanté à plusieurs colloques, notamment en novembre 2012, un colloque de l'association des directeurs d'établissements de santé mentale, que lui, avec son équipe, pour les programmes de soins, il déboulait au domicile des patients pas d'accord pour prendre leur injection en retard, porte fracassée, piquée de force, au domicile, un point, c'est tout. Ça, c'est illégal.
Oui.
Ça, c'est illégal.
D'accord.
C'est terminé. Bon, donc, là-dessus, c'est
quand même... Il s'en vantait.
Oui, il s'en vantait. C'est pas d'hier. Il s'en est toujours vanté, ce psychiatre. Il n'est pas de seul. Lui, il le dit ouvertement. Il y en a d'autres, ils le font. Enfin, ça, là-dessus, on a fait reculer tout le dispositif. Et c'est une très bonne chose.
Bravo. Bravo.
Donc, il y a ça. Alors, il y a d'autre part, qu'est-ce qu'elle amène, cette provision de loi ? Elle amène également que là où, dans les contrôles obligatoires, l'avocat était facultatif, l'avocat devient obligatoire.
D'accord.
Et là où le contrôle était un contrôle à J15, avant le 15e jour...
Le contrôle, c'est le JLD, le passage...
La proposition de loi proposait un passage à J10, ce que nous, on avait préconisé. Le député avait adopté nos préconisations là-dessus. À la base, il proposait un J5. Et nous, on était montés au créneau après y avoir réfléchi, en disant le contrôle judiciaire obligatoire au 5e jour au plus tard, ça ne va pas. Parce que ça va jouer pour une toute petite minorité d'internés et pour les gens en état de crise au moment de leur admission, dont la crise est sédatée, qui peuvent bénéficier d'une décision de main levée, le principe de précaution va jouer et donc plus personne n'obtiendra de main levée. Donc nous préconisons que la décision soit prise avant le 10e jour, au 7, 8e, 9e jour, parce que cela permet notamment pour des patients maniaco-dépressifs qui vivent des moments, des phases maniaques, d'excitation maniaque, que certes, bon, leur état peut nécessiter au décours d'une phase maniaque une hospitalisation sous contrainte, à la faveur des traitements ou d'une prise de conscience ou les deux, leur crise peut s'arrêter là, leur prise de conscience opérée. Quand ils arrivent au contrôle du juge au 7, 8e, 9e jour, ils peuvent argumenter, bénéficier d'une main levée. Et pour nous, il nous semblait plus important de garantir le droit des patients et du plus grand nombre que de garantir les droits de seulement 10 ou 20 personnes à travers le pays par an. Il nous a semblé donc de notre mission, et ça c'est ce qu'on avait vu, c'est Maître Raphaël Maillet qui avait attiré notre attention là-dessus, puisque les avocats finalement sont intéressés depuis le 1er août 2011 à obtenir des mains levées. Or, les mains levées, on les obtient sur tel vice de forme ou telle inégalité au fond ou le mélange des deux. Or, avec un dispositif plus resserré où il n'y a pas de contrôle mensuel, il n'y a pas de nouveau contrôle avant 6 mois, il y a juste un passage au juge, point, puis après plus rien, hein, c'est ce que ça veut dire. Plus c'est rapproché de l'admission, plus c'est proche de la crise qui a provoqué l'admission, les juges sont répressifs. Aux dernières nouvelles. Et si on rapproche considérablement le passage obligatoire du juge du moment de l'admission, il n'y aura plus de main levée. Et donc, pour finalement, ça s'est avéré une catastrophe. Et nous avons stoppé là-dessus. Nous avons été parmi ceux, bizarrement, mais on a emporté l'avis de nos collègues des autres associations de patients, d'ailleurs, qui avons dit au contraire des syndicats de soignants, qui étaient d'accord avec un passage rapproché de l'UNAFAM aussi. Nous, on a dit non, passage au 10e jour, ou statu quo, et maintien de la complexité. Pour nous, il nous a semblé indispensable que le grand nombre de certificats et d'avis médicaux soient maintenus. Parce que la complexité en matière dans le formalisme, c'est une garantie contre l'arbitraire. S'il y a un formalisme dans la privation de liberté qui est corseté, les formalités sont nombreuses, on doit faire plusieurs actes administratifs, ça garantit contre l'arbitraire de l'administration, puisque en cas de nullité, on peut dire désolé, monsieur le juge, vice de procédure, vous donnez main levée. Or, simplifier la procédure, c'est une catastrophe. Et simplifier la procédure, nous, on s'y est opposé. Alors, finalement, la proposition de loi raccourcir, finalement, le 25 juillet, il y a eu un amendement de la ministre de la Santé qui, après, pour des raisons de commodité de service, les services n'étant pas prêts, a demandé que le député veuille bien accepter le passage, le député rapporteur, Denis Robillard, veuille bien accepter le passage du contrôle J10, au 10e jour au plus tard, à J12. Donc, à ce que l'audience soit 9, 10, 11e jour. Donc, on raccourcit de J15 à J12. Alors, finalement, un consensus a été trouvé à l'Assemblée nationale. OK, ça a été adopté. Donc, c'est ce qui passe au Sénat, là. Nous, on va essayer de revenir là-dessus et de dire J10, c'est bien. J12, c'est un peu tard. Bon, ça ne fait rien. Bon, voilà. Sachant que le CERPA est auditionné avec les associations d'usagers lundi prochain.
Lundi au Sénat. Au Sénat,
par le sénateur rapporteur Jacques Hillemaine. Mais ce qui nous paraît plus ennuyeux, c'est que le député rapporteur avait proposé J10 et avait dit, puisque le contrôle se fait au 10e jour, avant le 10e jour, le certificat de huitaine tombe. L'obligation du certificat de huitaine tombe. Or, c'est là une mesure de simplification. Et d'autre part, l'avis conjoint, quand le dossier est envoyé au greffe du JLD, il y a un avis conjoint du psychiatre de traitant du pavillon avec un autre de ses collègues, un avis de deux psychiatres de l'établissement. Cet avis conjoint est simplifié et devient un avis d'un seul médecin. Donc il y a comme ça un processus de simplification. Et nous, ça nous semble incohérent de passer à J12 alors même que le certificat de huitaine est supprimé, devrait être remplacé par un certificat de semaine. Donc je vais essayer de faire valoir ce point de vue lundi prochain. Mais d'après moi, la simplification qui est très demandée par les syndicats de psychiatres et les directeurs d'hôpitaux va passer. Enfin, on va faire une protestation au moins. Voilà. Alors donc, l'avocat est rendu obligatoire, ce qui est très bien. Il va y avoir une rediscussion de la tarification de l'AJ dans une prochaine loi, ce qui est une bonne chose. Le passage au juge, est relativement un peu raccourci. Ça c'est une mesure de simplification, d'organisation du circuit. Le régime dérogatoire saute pour partie. Les programmes de soins, on peut plus contraindre aux soins comme ça, sans s'assurer d'un certain accord du patient, ce qui est déjà pas mal. En tout cas, on peut pas contraindre dans le cas des programmes de soins, ce qui est déjà pas mal. Bon, il y a comme ça un certain nombre d'avancées. Donc, cette proposition de loi amène tout de même un certain nombre d'avancées. Mais bon, ce qu'on sait également, c'est que l'organisation des soins en psychiatrie et santé mentale va être discutée en 2014. Et ce qu'on sait également, c'est ce qui ressort des débats du 25 juillet, c'est ce qu'a admis la ministre, c'est que la porte est ouverte à de nouvelles réformes. Et ça, c'est important.
C'est bien.
Oui, c'est très bien. C'est très bien. Ça veut dire que l'avenir dépendra en matière de psychiatrie santé mentale de l'essor de la jurisprudence. Or, la jurisprudence est en plein essor, étant donné que les contentieux sont devenus multiples, obligatoires, et qu'au fur et à mesure des mains levées, eh bien, se pose la question du contentieux indemnitaire.
Oui.
C'est-à-dire, quand il y a une main levée qui est obtenue, on peut réclamer l'indemnisation du dommage civil provoqué. Donc, ça dépendra de l'évolution de la jurisprudence. Nous, on a réfléchi à d'autres actions procédurales et des mobilisations politiques, notamment des corporations, des soignants et de cette interconnexion qu'on forme, puisqu'on s'est interconnecté avec les psychiatres du collectif des 39, qui bougent sur le terrain de la mise à bas de la psychanalyse, le traitement de l'autisme, etc., sur ces questions-là, sur le maintien du drapeau de la psychanalyse, de la psychothérapie institutionnelle. On s'est greffé un peu dans leur réseau, hein, et ils nous soutiennent. Donc il y a quand même une connexion entre nous. Et donc cette mobilisation et la mobilisation d'un centre de politique peut amener des réformes successives au fur et à mesure de l'évolution de la jurisprudence. Donc la porte est ouverte. Donc en fait, ce que le CRPA a amené, c'est une ouverture de porte avec la QPC du 20 avril 2012, avec une réforme partielle, une autre réforme partielle en 2014 de l'organisation des soins, et la possibilité ouverte, comme le dit très bien le député rapporteur Denis Robillard, de réformes successives à l'avenir. Là-dessus, je voudrais faire un point sur qui est le député Robillard et à quel courant il appartient. Parce que ça, c'est important, on ne comprend pas si on ne voit pas ça.
Oui. Moi, je t'écoute.
Alors donc, le député Denis Robillard, pourquoi le député Denis Robillard, même que les socialistes sont très frileux sur la question psychiatrique d'ordinaire. Historiquement, les socialistes n'ont mouillé la chemise que fragmentairement en 89-90 par le sénateur Michel Dreyfus-Schmidt, qui présidait la commission des lois, qui était partisan de la judiciarisation des internements et qui l'avait soutenu en 90 au moment de la réforme de la loi de 1838 et qui avait été mise en minorité à très peu de voix près à la commission des lois. Autrement, c'est plutôt les quelques parlementaires socialistes isolés, minoritaires, et pour le reste, c'est les groupes communistes, les groupes parlementaires communistes qui ont soutenu bec et ongles depuis 90, la judiciarisation des internements, les droits fondamentaux des patients, et donc après, ça a essaimé, alors, le député Arnaud Montebourg, en 2003, avait pris une position en faveur de la judiciarisation des internements en posant une question écrite, impulsée notamment par Philippe Bernardet, issu donc du GIA. Une question écrite au ministre de 2003. Autrement, on ne peut pas dire que Kouchner, les gens qui ont soutenu Bernard Kouchner étaient follement. Alors, il faut bien voir que dans les différents courants du Parti Socialiste, il y a le courant Benoît Hamon, le courant Hamon d'avance, qui est un courant droits sociaux, gauche du PS, et que le député Robillard fait partie de ce courant de la gauche du PS. D'autre part, le député Denis Robillard est un ancien président d'Amnesty International France. Et donc, il y a un engagement très marqué de sa part et très ancien, c'est un avocat de métier, c'est un engagement très ancien sur la question des droits de l'homme. Or, s'il y avait bien ce jour un terrain qui manquait affreusement de marquer, d'impulser, d'insister, qu'on insiste sur le fait que les droits fondamentaux s'y exercent, c'était bien le terrain psychiatrique. Puisqu'on considérait traditionnellement que l'enceinte psychiatrique était une parenthèse où le droit ne s'exerçait pas. Hein. Où c'était le droit coutumier, un droit de la jungle, finalement, un droit du plus fort, un droit coutumier qui s'exerçait.
Et les pleins pouvoirs aux médecins.
Aux médecins et à l'administration.
Et à l'administration.
Aux médecins et surtout à l'administration. Parce qu'il ne faut pas oublier que, si vous voulez, l'ancien pouvoir des aliénistes, l'ancien pouvoir des psychiatres qui étaient plénipotentiaires jusqu'aux années 70, a été émietté petit à petit pour la direction, pour le pouvoir des directeurs d'hôpitaux qui sont eux désignés par l'administration et qui en particulier depuis la loi HPST, Hôpital Patient Santé de Territoire de 2009, sont devenus les patrons des hôpitaux. Les directeurs d'hôpitaux qui sont désignés par les ARS et désignés par
les
ministères sont les patrons des... Et en réalité, vous avez eu bel et bien, depuis 2009, une bronca des praticiens hospitaliers, des psychiatres hospitaliers, contre l'administration. C'est pour ça qu'on s'est trouvé en 2011 dans une configuration marrante où on s'est trouvé en alliance avec des syndicats de psychiatres qui n'avaient pas... On a manifesté ensemble à un moment donné de façon bizarre. Mais bon, c'est bien cette mainmise de l'administration sur les hôpitaux, cette mise en coupe réglée avec la prolétarisation du corps médical qui est en jeu là-dedans. Enfin, ça, c'est une toute autre question.
Tu voulais redire quelque chose sur cette proposition de loi ?
Alors, je
voudrais juste dire un mot. On a 10 minutes encore d'antenne.
Alors, je voudrais juste dire un mot. C'est qu'à la faveur d'une espèce de polémique qui s'est soulevée cet été avec ce père de ce jeune homme interné à l'UMD d'Albi, qui a attiré notre attention sur le fait que la proposition de loi, c'est vrai, pour supprimer le régime dérogatoire des internés en UMD, avait donc proposé, et ça a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, l'abrogation d'un article précis de la loi du 5 juillet 2011, l'article 3222-3, du Code de la santé publique, qui avait légalisé les unités pour maladies difficiles, qui auparavant, avant la loi du 5 juillet 2011, les unités pour maladies difficiles étaient régies par décret. C'était des hôpitaux-prisons, des unités de haute sécurité des hôpitaux psychiatriques, voilà, les quartiers de haute sécurité des hôpitaux psychiatriques. Il y en avait 4 avant 2008, maintenant il y en a 10. Hein. C'est sous Sarkozy, depuis que Sarkozy est passé ministre de l'Intérieur, puis ultérieurement président de la République, il y a eu une planification d'ouverture de nouvelles unités pour l'aide difficile, en parallèle de la planification de l'ouverture des UHSA, les hôpitaux-prisons, les unités hospitalières spécialement aménagées. La cinquième UMD, il y avait donc 4 UMD, comment Paul Guiraud Villejuif, Henri Collin, qui avait été ouverte dans les années 10, bon, dans laquelle Hervé Bazin avait parlé dans La tête contre les murs. Ensuite, il y avait eu successivement Cadillac-sur-Garonne près de Bordeaux, Montfavet près d'Avignon et Sarreguemines dans l'Est, en Moselle. Et en 2008, il y a eu la cinquième unité pour maladies difficiles qui a été ouverte à Plouguer-Dével dans les Côtes d'Armor. Puis après, successivement, les autres à Monestier-Merline en Corrèze, à Albi, au Vinatier. Avec au Vinatier, ils ont tout. Alors là, c'est un des plus grands hôpitaux psychiatriques de France et d'Europe même. Ils ont l'UHSA, ils ont l'UMD, l'unité pour maladies difficiles, l'unité de soins intensifs, ils ont tout ce qu'il faut. Ça fait un bien fou.
Et vous en charge de pas tomber là-dedans.
Enfin, il y a quand même des quartiers libres. Hein. C'est bien rare.
La cour.
Enfin bon. Bon, enfin, ils ont une salle spécialement aménagée pour le JLD. C'est...
toujours place. Hein.
Ils sont toujours là.
On prend bien soin d'eux.
Voilà, oui. On s'occupe de près.
Voilà, on s'occupe de très près. Toujours est-il que... ces unités pour maladies difficiles étaient régies par simple décret. Il y a eu un décret de 86 portant règlement intérieur type, puis après un décret de 2005, et la loi du 5 juillet 2011 avait émis un article de loi et renvoyé le restant de l'organisation à la partie réglementaire, donc au décret. Tandis que là, la proposition de loi Robillard, après concertation avec les ministères concernés, supprime cet article de loi qui légalisait les unités pour maladies difficiles et renvoie tout ce qui est unité pour maladies difficiles au plan du décret, au plan réglementaire, si bien qu'il y a un problème d'inconstitutionnalité potentielle, en ce que l'article 34 de la Constitution de la Ve République dit que tout ce qui est création de catégories nouvelles d'établissements publics est régi par la loi. Que les nouvelles catégories d'établissements publics sont régies par la loi. Nous, on vient nous dire que les unités pour maladies difficiles sont des simples unités de soins intensifs, renforcées, et pour le reste, c'est le régime ordinaire. C'est pas si simple. Et d'autre part, l'article 34 de la Constitution dit également que c'est la loi qui garantit les droits fondamentaux. Or là, c'est le règlement qui garantit le droit des internés en UMD. Donc il nous semble qu'il y a un débat sur l'inconstitutionnalité potentielle du dispositif purement réglementaire de l'unité pour maladies difficiles et des internés en unité pour maladies difficiles à partir de la réforme du 5 juillet 2011. Pour prendre un terme un peu savant, il y a un problème d'inconstitutionnalité du règlement pour empiètement sur le domaine de la loi tel que prévu par l'article 34 de la Constitution. En termes savants.
Je vais te laisser conclure, André, parce qu'il est déjà 9h05. Finalement, si je comprends ce que tu nous as, ce que tu as essayé de nous résumer, c'est que finalement, le patient, alors je ne sais pas, il est préférable de dire le patient, il est préférable de dire la personne hospitalisée. Je sais pas.
Non, la personne, officiellement, c'est la personne objet de soins psychiatriques.
Oh, voilà. Tu dirais comment, toi ?
Psychiatrisé.
Ah, d'accord. A toujours été maintenu au banc de la société.
Ce n'est plus le cas. Curieusement, ce n'est plus le cas parce que le dispositif a été impacté par des actions constitutionnelles émanant d'internés et anciens internés.
Ben voilà, ben c'est ce que je voulais te faire dire. Voilà. Qu'historiquement, bon, voilà, c'était comme ça. Et que grâce aux luttes.
Aux luttes juridiques.
Pardon ?
Aux luttes juridiques.
Oui, aux luttes juridiques. À la réflexion des anciens patients, en écoutant les patients, alors non pas les patients psychiatrisés, à cette écoute, à l'acharnement aussi du travail des avocats, au travail
des bénévoles,
et le travail et la réflexion, finalement, on voit qu'on peut réussir après tant d'années à rapprocher les droits des psychiatrisés.
D'une catégorie de la population qui est particulièrement exclue, qui est particulièrement stigmatisée, qui est particulièrement frappée d'opprobre, qui est particulièrement rejetée, puisque quand même le critère de la maladie mentale est quand même un des grands critères de l'exclusion sociale.
Oui. On te laisse 2 minutes pour développer ça.
Je veux dire que s'il était possible d'avoir une politique plus, c'est ce que l'Europe essaye de mettre en place, plus inclusive pour les personnes atteintes de troubles mentaux, ce serait une bonne chose. Il faut en finir avec le rejet et la discrimination sur les personnes atteintes ou supposées atteintes de troubles mentaux. Il faut avoir une politique plus inclusive. Quand on sait maintenant les ravages des stupéfiants dans les jeunes générations, on ne peut plus mettre toute une population entre parenthèses. Il faut prendre à bras le corps ces problèmes, les adopter comme étant... La société doit adopter ces problèmes comme étant les siens et les reconnaître.
Merci André.